Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Abdel Redjeb va nous rejoindre, gérant chez Montségur Finance. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. D'abord, évidemment, un mot sur le secteur bancaire, un mot sur Crédit Suisse, mais aussi sur le risque de contagion de ce mouvement de panique au secteur bancaire européen.
Oui, alors Crédit Suisse, ils ne sont pas en bonne santé depuis quelques mois. Il y a eu des retraits assez massifs de plus de 100 milliards d'euros à l'automne et déjà une augmentation de capital à laquelle la Saudi National Bank a participé. Le 9 mars, ils ont été contraints de décaler la publication de leur compte annuel car il y avait des demandes d'informations supplémentaires du régulateur américain. Hier, on se rend compte que les informations supplémentaires sont liées à des faiblesses assez matérielles dans les comptes, notamment dans certains modes de contrôle. Et ce matin, l'actionnaire en question, donc la Saudi National Bank, qui a participé à l'augmentation de capital, déclare qu'ils ne vont pas réinvestir dans Crédit Suisse en cas de difficulté. Donc tout cela sur Crédit Suisse, cette tempête sur Crédit Suisse montre, le marché pense qu'il y a une contagion sur le continent européen. Cependant, les news sont assez spécifiques à Crédit Suisse et les banques européennes sont assez résilientes, mais par effet de contagion, on a une baisse généralisée du secteur bancaire ce matin.
Ça veut dire que c'est un mouvement de panique qui n'est pas forcément très fondé sur le secteur bancaire ?
Oui, effectivement. Enfin, c'est ce qu'on peut penser de prime abord. C'est des difficultés spécifiques à Crédit Suisse. On voit lors de la dernière publication de résultats de Crédit Suisse que leur ratio CET1 est de 14%, c'était supérieur aux attentes du marché. Les banques européennes sont plus solides que les banques régionales américaines. C'est des banques systémiques, donc il y a une vigilance assez accrue sur ces banques-là. Depuis 2008, les banques affichent une meilleure solidité financière et un meilleur contrôle des risques. Donc c'est plus un vent de panique que des problèmes fondamentaux. Après, on découvre des liens entre Crédit Suisse et certaines banques européennes, effectivement, il pourrait y avoir des difficultés. Cependant, la visibilité, elle est assez réduite aujourd'hui. On voit sur les banques américaines un effet assez intéressant. C'est l'exode des fonds des petites banques régionales qui vont vers les grosses banques américaines. Lundi, Bank of America a déclaré qu'ils recevaient beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de dépôts, et ça vient justement des banques régionales où les gens commencent à déplacer leur épargne vers les grosses banques.
Comment peuvent réagir les banques centrales à cette situation? À votre avis, les banques centrales, finalement, elles se retrouvent tiraillées entre, d'un côté, la nécessité de lutter contre l'inflation et, de l'autre, peut-être envoyer un petit peu un ballon d'oxygène en direction du secteur bancaire et peut-être aussi marquer une pause dans les hausses de taux?
Alors, oui, demain, justement, il y a la BCE, demain, qui doit se réunir, avec très tiraillée, surtout après les chiffres de l'inflation française ce matin qui ont été révisés à la hausse. Donc les investisseurs, ils ont en tête environ une hausse de 50 points de base de la BCE pour demain. Une telle hausse enverrait, je pense, un mauvais signal au marché. Par contre, on peut envisager, par exemple, une hausse de 25 points de base qui serait plus souhaitable, montrant que la BCE se soucie toujours de l'inflation et qui, par contre, qu'elle prend note du contexte actuel assez difficile sur les banques.
On sait que la remontée des taux pose un problème aux banques à cause de leur portefeuille obligataire. Ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Crédit Suisse. Les banques françaises aussi sont exposées à la remontée des taux.
Oui, bien sûr, c'est exposé à la remontée des taux. Et de manière générale, le marché, enfin, lorsque les taux montent assez violemment, on peut penser à ce que certains acteurs les plus faibles n'arrivent pas à rembourser, donc un petit stress sur les portefeuilles obligataires. Mais encore une fois, je pense que les banques européennes, par exemple BNP Paribas, sont très solides et sont assez armées pour faire face à cela. Après, la visibilité reste encore assez réduite et les jours qui arrivent, on aura un peu plus de détails sur l'impact de ces hausses de taux et surtout l'impact de Crédit Suisse sur celle-ci.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Abdel Redjeb, gérant chez Montségur Finance. On va maintenant s'intéresser aux chiffres de l'inflation et de l'impact que ça peut avoir sur la décision de la Banque Centrale Européenne demain. On va en parler avec François Cabot, senior économiste zone euro chez AXA IM. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
On va parler dans un instant de la réunion de la BCE, mais d'abord peut-être ce chiffre de l'inflation en France pour le mois de février. 6,3% en rythme annuel, donc le chiffre est plus élevé que la première estimation qui avait été communiquée il y a quelques jours. Avec un point très intéressant maintenant, c'est la hausse du prix des produits alimentaires qui est le principal moteur de l'inflation en France devant la hausse des prix de l'énergie.
Oui, effectivement, et c'est tout à fait le cas en zone euro également, avec une contribution... Donc non seulement l'inflation est plus élevée dans l'alimentaire que dans l'énergie, mais sa contribution, son poids est plus élevé. Donc c'est-à-dire qu'on a une contribution de l'alimentaire à l'inflation totale qui est deux fois celui donc de l'alimentaire par rapport à celui de l'énergie. Donc on a une vraie effectivement rotation quelque part dans la source inflationniste qui est en train de passer de l'énergie vers l'alimentaire et de plus en plus vers l'inflation sous-jacente.
Et ça, François, c'est pas forcément très rassurant en matière de perspective, puisqu'on sait que le prix des produits alimentaires en France va continuer de progresser dans les prochains mois. C'est ce que nous ont dit de manière intensive les distributeurs depuis le début de l'année.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est plus vraiment la poussée inflationniste en tant que telle, mais plutôt sa transmission à l'économie et sa persistance. Donc on est vraiment dans ce sujet-là de c'est plus vraiment l'énergie en tant que telle ou un autre aspect qui pousserait les prix à la hausse, mais plutôt pendant combien de temps effectivement on va avoir un relais. En ce moment, on parle beaucoup effectivement des produits alimentaires, on parle un peu moins des salaires. Je pense qu'on va en parler un peu plus des salaires dans les prochains mois et de se dire effectivement que ceux-ci vont contribuer à maintenir les prix à un niveau relativement élevé.
Dans ce contexte, la réunion de la BCE demain va probablement être difficile entre d'un côté la nécessité de lutter contre l'inflation et de l'autre sans doute le besoin aussi de donner un peu d'oxygène au secteur bancaire. Quelle peut être la décision de Christine Lagarde ? Elle a préannoncé une hausse de 50 points de base pour demain. Est-ce qu'à votre avis, il y a une possibilité pour qu'elle revienne en arrière ?
Effectivement, meeting très compliqué, avec une communication qui va être ardue, effectivement. Il faut se rappeler que son engagement pour la remontée des taux de 50 points de base pour le mois de mars avait eu lieu avant la surprise à la hausse de l'inflation. Donc là, je pense que le meeting de la BCE est clair. Elle ne peut pas se permettre de revoir à la baisse son intention, alors qu'elle-même, elle a été surprise à la hausse. Et donc, on va avoir 50 points de base pour le meeting de demain. C'est mon avis dessus. Après, par contre, pour la suite, le message ne pourra pas être aussi limpide qu'avant. C'est-à-dire qu'on avait précédemment, dans les meetings, une indication chiffrée sur quelle devrait être la prochaine hausse qui avait été engagée. Et là, je pense qu'effectivement, on aura une indication beaucoup plus qualitative et notamment liée aux perspectives à la fois d'inflation, évidemment, et ce qui fait écho au dernier développement dont on faisait écho à l'instant, mais également sur la stabilité financière. On ne peut pas effectivement complètement faire table rase de ce qui se passe depuis une grosse semaine à la fois aux États-Unis et en Europe et se dire qu'effectivement la BCE doit avoir et a de toute façon un œil dessus, mais il faut quand même se rappeler et pas perdre de vue que le mandat de la BCE, il est en premier lieu sur l'inflation et en second lieu sur la stabilité financière. Donc effectivement, meeting difficile, mais de mon point de vue, en tout cas à très court terme, l'inflation devrait dominer dans les considérations de la BCE.
Mais est-ce que ce ne serait pas contre-productif de changer de discours de la BCE dans la mesure où ça pourrait apporter davantage de panique sur les marchés?
Et tout à fait. Et c'est précisément pour ça que je pense que 50 points de base demain est le scénario le plus probable et celui qui fait le plus de sens aux yeux des chiffres d'inflation qu'on a eu. Et effectivement, indiquer qu'une remontée continue sur de la politique monétaire fait totalement sens. Mais qu'effectivement, celle-ci sera peut-être plus modérée avec une prise en compte d'autres signaux au fur et à mesure que on comprend de mieux en mieux ce qui se passe et les ramifications de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qui est en train de se passer en Europe ou pas d'ailleurs. Donc je pense que le temps sera de notre côté à ce niveau-là et la BCE devrait jouer avec cette information qui nous arrive jour après jour, semaine après semaine.
Merci beaucoup François Cabot, senior économiste zone euro chez AXA IM, décision de la Banque Centrale Européenne. Donc demain, ce sera à suivre en direct sur notre antenne, édition spéciale à partir de 14h, avec la décision à 14h15 et la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne. Ce sera à partir de 14h45. On va revenir justement sur ce mouvement de panique à présent sur les valeurs bancaires en Europe. Je vous rappelle l'info de ce milieu de semaine. L'action Crédit Suisse abandonne près de 24% actuellement après une déclaration de son principal actionnaire, la Banque Nationale Saoudienne, qui refuse de mettre la main au portefeuille pour aider la Banque Suisse en difficulté. Ça entraîne un mouvement de panique dans le secteur bancaire à Paris. Société Générale abandonne pratiquement 11%. On va en parler avec Alexandre Baradez, responsable de la stratégie chez IG. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Qu'est-ce qui est à l'origine des difficultés de Crédit Suisse? Tout à l'heure, on en parlait déjà. On disait que c'était des difficultés qui étaient propres à la banque et qui n'étaient pas liées au secteur bancaire européen. Est-ce que c'est également votre sentiment?
Oui, le cas de Crédit Suisse, on ne le découvre pas à l'aune de ce qui se passe aux États-Unis. On sait que c'est une banque qui, depuis la crise des subprimes, a des cours de bourse qui ne cessent de baisser. Ça valait 70 francs suisses en 2006-2007, ça vaut moins de 2 francs suisses aujourd'hui. Et ça ne s'est pas fait en 3 jours. Donc, et à chaque, j'allais dire, stress financier en Europe, stress bancaire ou choc économique sur les 15 dernières années, c'était toujours une banque dont le nom est ressorti, où on s'inquiétait de sa solidité par rapport à certains niveaux d'exposition, etc. Et c'est vrai que souvent les actionnaires historiques ont remis au pot, et là apparemment il semble qu'on s'en revient un petit peu à la fin de tout ça. La question qu'il y a, c'est vrai que à ce stade, on ne peut pas dire avec certitude est-ce qu'il y a un Crédit Suisse qui sera encore là dans une semaine ou pas. Ça, personne n'en sait rien, mais je pense en revanche, et c'est peut-être comme ça qu'il faut aborder la question, c'est que est-ce que l'Europe aujourd'hui, en pleine phase de normalisation monétaire, on sait que les taux grimpent et que ça a des conséquences sur les banques les plus sensibles, donc celles qui sont fragiles, effectivement, sont perturbées par ce qui se passe, en tout cas ça accentue des problèmes déjà existants, mais est-ce que du coup on laisse se faire et se fomenter une crise financière, bancaire surtout, hein, en pleine phase de normalisation monétaire dont on sait qu'il y a un coût pour l'Europe, pour les États-Unis et pour le monde, donc il y a un coût de la lutte contre l'inflation, est-ce qu'on veut ajouter un coût d'un stress financier systémique à ce coût de la lutte contre l'inflation? Et ça, la réponse est évidemment non, aucun banquier central ne l'autorisera, donc dès demain au niveau de la BCE et dès la semaine prochaine au niveau de la Fed, ça devrait déjà commencer à changer un petit peu de ton par rapport à ça, pas de pivot, hein, mais changer de ton par rapport à ça, et deuxième réflexion, peut-on imaginer une seconde, alors qu'on sait que c'est un établissement qui est fragile depuis pas mal de temps, que s'il devait disparaître, que cela puisse se faire de façon totalement désordonnée. On sait comment une faillite bancaire désordonnée impacte le système dans son ensemble. Donc une banque systémique qu'on laisserait choir de manière désordonnée juste pour dire bon, on ne porte pas assistance aux banques parce que ça s'est terminé, c'est le bon vieux temps, ça ne marche pas comme ça. Il y a trop de dangers pour une zone, il y a trop de dangers financiers, trop de dangers économiques, donc on ne peut avoir qu'un plan ordonné. Si tenté, et je ne sais pas si ce sera le cas, mais si tenté que Crédit Suisse devait être repris, faire faillite, ou en tout cas être repris en termes de certaines activités, ça ne peut que se faire de manière ordonnée. On voit qu'il y a des discussions qui sont déjà en cours entre les Suisses et les Français par rapport à ça. C'est l'information Bloomberg il y a quelques instants. Enfin, ils avaient peur d'un cas de cette information. Ça discute déjà. Donc, si ça discute au niveau politique, si ça discute déjà au niveau des banques centrales, BCE et BNS, ça discute très probablement entre les banques de la zone euro ou européenne pour éventuellement mettre en place des plans de contingence, de voir des plans de rachat ou autre. Enfin, moi, j'arrive pas à imaginer une seule seconde que l'on assisterait à la même chose qu'en 2008 avec des établissements comme ça qui chutent du jour au lendemain sans plan de contingence mis en place en face.
La décision de la Banque nationale saoudienne de ne pas mettre la main au portefeuille pour aider davantage Crédit Suisse alors qu'elle en est le principal actionnaire, ça a surpris les marchés. Ce matin, on se dit que peut-être la banque saoudienne a découvert des choses auxquelles elle ne s'attendait pas. Ça a largement contribué à ce mouvement de panique.
Il y a eu ces informations qui n'ont pas été démenties d'ailleurs par la direction suisse sur certains éléments comptables ou autres, mais le PDG encore aujourd'hui, il le fait beaucoup depuis plusieurs jours, alors on ne sait pas si c'est un bon signe ou pas, mais il rassure sur le fait que les éléments comptables donc qui ont été vus ne remettent pas en cause les questions de solidité bilancielle, que c'est audité par des auditeurs ou autres, donc il n'y a pas de... Et là-dessus, je tentais de le croire, c'est-à-dire que... Il y a une communication, le but c'est pas de dire est-ce que le PDG qui communique, c'est comme tous les PDG qui communiquaient avant chaque faillite bancaire, à savoir il nous rassure et deux jours après c'est la faillite, il y a un gros risque que ça puisse être ça. Mais c'est encore une fois, c'est le but n'est pas de deviner ce qui va arriver pour Crédit Suisse. On veut tous essayer de savoir ce qui va se passer, mais c'est essayer plutôt de voir dans le pire des cas, si effectivement les actionnaires historiques ne remettent plus au pot, quelles sont les conséquences et quels sont ensuite les plans d'action potentiels. Et encore une fois, toutes les crises graves qu'on ait connues, les crises systémiques, subprimes ou autres, même dans les épisodes les plus noirs qu'on ait connus de l'histoire financière, il y a toujours eu ensuite une assistance. Alors on peut dire, ouais, mais les banques centrales ne feront rien à ce moment-là s'il y a besoin. On disait déjà ça, après chaque crise, les banques centrales ont déjà trop fait, ce qu'ils ne peuvent plus faire. Regardez la Banque d'Angleterre, à un moment donné, quand ça commence à grincer les dents sur le système de fonds de pension, ils sont intervenus malgré un durcissement monétaire en place. Donc c'est, on ne peut pas imaginer qu'il y ait une non-réaction à la fois à l'échelle politique, à l'échelle des banques européennes, parce qu'il y a aussi d'autres banques qui sont exposées probablement à Crédit Suisse. Et c'est pour ça qu'on voit ces cours qui sont de partout. Et donc, on ne prend pas une situation pourrir longtemps. Et je ne pense même pas qu'on puisse assister à une situation qui durerait même plus de quelques heures sans qu'il y ait une solution apportée. Voilà. Ça me paraît totalement un risque que personne ne voudrait prendre à ce stade, où on sait très bien qu'en plus, encore une fois, ce qui se passe actuellement, la chronologie, je ne vais pas faire trop long, mais la chronologie, c'est quoi? C'est des taux qui montent beaucoup parce que on avait été très, très assouplissant en termes des conditions financières au moment de la crise Covid. Donc, on monte les taux. Les taux qui se redressent, c'est pour rééquilibrer les excès qui sont arrivés post-Covid. La correction de ces excès, on le sait, peut entraîner des tensions. On voit aux États-Unis sur les banques, on commence à voir un petit peu en Europe sur les banques. Donc, ces tensions apparaissent aussi parce que les taux sont montés haut. Et regardez ce que fait le marché obligataire depuis maintenant 4-5 jours. Regardez là, à quelle vitesse les taux courts européens et américains repartent à la baisse. C'est que on a tous les yeux déjà rivés sur les banques centrales parce que tout le monde est convaincu qu'elles ne pourront pas garder une telle dynamique de durcissement monétaire avec ce qui se passe au niveau financier. Donc on s'attend à des communications de la part de banques centrales. J'ai pas de pivot, le terme n'est pas le bon parce qu'il y a toujours une inflation contre laquelle il faut lutter, mais la vitesse de pilotage du durcissement monétaire va être adaptée à la réalité économique et à la réalité financière. C'est comme ça que je vois les choses et je ne peux pas imaginer que pour lutter contre l'inflation, on mettrait à bas un système bancaire dont le coût pour le relever ensuite serait mais archi supérieur au coût de la lutte contre l'inflation. C'est deux coûts qu'il faut mettre en parallèle. Le coût de la lutte contre l'inflation et le coût qu'aurait un effondrement de plusieurs banques au niveau mondial.
Du coup, ça veut dire que la réaction sur le secteur bancaire européen cet après-midi, Alexandre, elle vous paraît excessive?
Oui, non, elle ne me paraît pas excessive, parce que c'est le rôle du marché d'anticiper toujours un peu le pire, ou le meilleur, ou le pire. Là, on est déjà en train d'anticiper des choses graves. Et donc, je ne suis pas du tout certain que ces choses graves arrivent. Des choses désagréables peuvent arriver, mais pas forcément dramatiques, parce qu'on a de l'expérience de 2007-2008 qui a montré qu'un des réponses inadaptées au départ, ça pourrait générer des choses absolument catastrophiques, des récessions profondes qui coûtent un argent monstre pour redresser tout ça en termes d'emploi, de retour de la croissance. Donc, il n'y aurait aucune logique politique, financière, monétaire à garder la trajectoire actuelle. Donc oui, je pense que les marchés actuellement sont presque vraiment un scénario assez dangereux. Et si on rapporte ça après aux indices connus, au CAC 40 par exemple, nous on souhaitait voir un retour du CAC 40 à 7400, ça nous paraissait un peu trop haut par rapport justement à ces questions de durcissement monétaire. Et donc on se disait, ce durcissement, on ne peut pas avoir des actions européennes qui fassent plus 7, plus 8 et des marchés américains qui étaient déjà dans une phase de correction depuis à peu près un mois et demi. Donc on a la correction. On peut dire, oui, mais c'est pas prévisible, ça arrive par les banques. Ce qui se passe par les banques, c'est une des conséquences de la normalisation monétaire. Donc c'était ça qu'on surveillait. C'était les conséquences de la normalisation monétaire et on commence à les avoir. Donc pour moi, le CAC, il va aller chercher peut-être des zones 6500-6800. Je suis même pas sûr qu'il y aille. Et si tant est qu'il y aille, je pense que ce seront des zones d'accumulation. C'est-à-dire, je pense pas qu'après on aille beaucoup, beaucoup plus bas parce que je vois cet épisode financier comme une réplique du choc systémique du Covid. Ensuite, phase de normalisation monétaire qui suit avec les soubresauts qu'on a connus l'année dernière, plus que les soubresauts, des corrections de marché liées à la normalisation monétaire. Et ça, c'est un des effets collatéraux de la normalisation monétaire aussi. Donc, vous voyez, c'est quand même une espèce d'écho, en fait. L'épicentre, c'est 2020. Et après, on a des échos de volatilité qui se produisent comme ça. Et pour moi, ça, c'est un écho de volatilité qu'il faut quand même intégrer, mais qui, pour moi, est une des dernières vagues de correction, par contre, qu'on a en Europe, et potentiellement peut-être dans la zone 6500-6800. Plus bas, je ne fais absolument pas du tout ce pari-là, et même déjà 6500 serait déjà un niveau, voilà. Je pense, c'était notre scénario à un moment donné, 6500-6800. Bon, on est à 6800. Voilà, c'est plutôt pour moi des zones désormais où, effectivement, il commence à avoir des opportunités pour les gérants qui avaient du cash, tout ça. Je pense que ce trou d'air sera mis à bon usage pour tous ces gérants qui avaient du cash un peu de côté. Et là, clairement, les trous d'air de 6, 7, 8% sur les indices européens, ça me paraît plutôt une opportunité qu'une menace.
Alexandre, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui un risque de panique bancaire, de bank run, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des épargnants qui souhaitent retirer leur épargne? Je vais être transparent avec vous. Il y a au moins une dizaine de personnes qui m'ont posé la question cet après-midi dans les couloirs de BFM.
Oui, pour mettre l'argent où? Si je retire mes fonds, je mets l'argent où? Si je suis un chef d'entreprise, si je suis un particulier, si je suis que je suis dans une grosse banque, parce que vu qu'il y a quasiment que des grosses banques en Europe, des banques d'ailleurs très diversifiées la plupart, hein, activité de financement, activité retail, etc. Si je suis client de ces banques et que j'ai peur, je sors mon argent, je le mets où? Mais il n'y a pas d'alternative, en fait. Il n'y a pas d'alternative à ça. Donc, le mouvement de dire je sors mes fonds, moi, je ne crois absolument pas à un bank run. Le seul truc qu'on pourrait avoir, c'est peut-être des clients de certaines banques. Là, on parle de la Suisse, donc peut-être qu'ils auraient envie de diversifier un peu. Donc, peut-être, c'est plus géographiquement, je trouve, qu'il y a un risque de dire qu'un certain type de banque peut être un peu visé par des mouvements de sortie de fonds. Mais encore une fois, quand vous êtes client d'une très grosse banque et que vous sortez au fond pour aller vers une grosse banque, oui, on ne peut pas dire le bank run, c'est pas, ne concerne pas toutes les banques. Il peut concerner certaines d'entre elles, et c'est là qu'il faut rassurer sur certains garde-fous par rapport à ces banques-là. Mais les fonds, il faut une destination de mettre ces fonds. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas une seconde à ces hypothèses où, d'un seul coup, une banque se viderait de ses... C'est pas une banque... Oui, les banques ou ces bank runs aux États-Unis, c'est quand même des banques très, déjà, bon, régionales, mais qui étaient très grosses, hein. C'est ça que je veux dire, mais c'était régional et avec des thématiques surtout. C'est des banques qui étaient très exposées à des secteurs qui avaient surgonflé, qui étaient survitaminés depuis 2020, la tech, la crypto, etc. Donc, ce sont des problématiques aussi de taille, de fonctionnement qui étaient anormalement élevées par rapport à des excès liés à une liquidité très abondante. Et donc, les banques en difficulté à ce stade aux États-Unis, c'est aussi des banques thématiques. Vous voyez, en Europe, on n'a pas ces banques thématiques qui sont très, comme ça, très focalisées sur une activité en particulier. Donc, c'est pour ça que non, l'hypothèse de bank run me paraît pas du tout, ça c'est très improbable. Et encore une fois, si on sort ces fonds de n'importe quelle grosse banque européenne, c'est pour les mettre où?
Voilà. En début de semaine, Bruno Le Maire avait affirmé qu'il n'y avait pas de risque de contagion de la faillite de la banque américaine SVB aux banques françaises. En termes de calendrier, ça fait beaucoup en l'espace de quelques jours, SVB, puis Crédit Suisse.
Ouais. Moi, la parole des politiques, c'est pas tellement accorder un crédit sur ce qui a été dit il y a 24 heures ou 48 heures. On sait comment marchent les responsables politiques. On peut nier l'évidence jusqu'à ce qu'il y ait l'évidence. Mais c'est pas tellement ça. C'est plutôt le futur. C'est une fois que l'évidence est là, que fait-on? Laisse-t-on la chose se faire de façon désordonnée ou se déroule-t-on pour que ça se passe de manière ordonnée? C'est ça qui va être intéressant. C'est pas ce qu'il a dit il y a 48 heures ou même la semaine dernière. Il a dit des choses aussi qui sont vraies sur la question de la résilience des banques européennes, sur la typologie, la nature des banques européennes, sur la régulation européenne, sur les ratios prudentiels européens qui sont tout à fait vrais. Donc voilà, là c'est une thématique Crédit Suisse, c'est pas une thématique banque européenne. Et après il y a évidemment une réaction défensive sectorielle en bourse parce que c'est toujours pareil pour la tech, c'est pareil. Vous allez avoir une grosse boîte tech qui va avoir souci, ben boum, on va vendre toutes les autres. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Ben là, pour les banques, il y a un problème sur quelques banques. On vend tout le secteur parce qu'on a trop peur, peut-être de façon exagérée. Donc, il faut bien aussi distinguer la réaction boursière qui peut être exagérée. Je pense qu'actuellement, il y a une réaction boursière sur plein de valeurs bancaires européennes qui est assez exagérée. Pour moi, ça reste un cas Crédit Suisse. Voilà. Et il faut s'assurer que ce cas Crédit Suisse reste bien isolé, cantonné, et qu'on ait des solutions à apporter, trouver des solutions raisonnables en gestion du risque pour éviter une contagion européenne réelle. Pour l'instant, c'est qu'un aspect boursier que l'on voit. C'est pas une contagion réelle en termes de risque. Le PNP n'est pas plus risqué aujourd'hui qu'elle était il y a deux jours. Voilà, ça ne change absolument rien. C'est son cours de bourse qui a baissé, mais c'est la banque, elle, il ne s'est rien passé pour la banque.
Merci beaucoup, Alexandre Baradez, d'avoir commenté en direct cette tempête sur le secteur bancaire européen, chef analyste chez IG. Bruno Le Maire doit s'entretenir dans les prochaines heures avec son homologue suisse pour évoquer le cas Crédit Suisse. Elisabeth Borne, la première ministre française, en a, elle, parlé devant le Sénat. Elle demande aux autorités helvétiques de régler le problème dont le dossier dépend en fait directement des autorités suisses. C'est ce qu'elle a déclaré ce matin. Elle a également précisé que les banques françaises n'avaient aucune exposition à la faillite de SVB. La première ministre, donc, qui rappelle les propos de Bruno Le Maire en début de semaine. On va parler de cette crise du secteur bancaire avec Christian Parizeau, économiste, qui est en direct avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour.
Conseiller chez Aurel BGC. D'abord, un mot sur cette réaction dans le secteur bancaire en Europe suite aux interrogations autour de la solidité de Crédit Suisse. Est-ce que les réactions vous paraissent excessives?
C'est surtout un manque d'informations qu'on a aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a deux types de problèmes qu'il faut peut-être pas mélanger. On était jusqu'à présent sur un problème purement de solvabilité, de liquidité. Hein. Lorsque on a eu des problèmes, notamment avec la Silicon Valley Bank, c'était un problème de gens qui retiraient leurs dépôts de la Silicon Valley Bank. Et donc à ce moment-là, il suffit que la banque centrale le permette aux banques de se refinancer et d'injecter des liquidités. Là, dans Crédit Suisse, on peut se poser la question si le fond du problème n'est pas plus un problème de solvabilité. société, puisqu'aujourd'hui, on parle d'augmenter finalement le capital. Hein, on a besoin de plus de fonds propres, donc pour absorber éventuellement des pertes d'activité. Donc là, c'est beaucoup plus gênant, parce que la réponse n'est pas forcément qu'une réponse en termes d'apport de liquidité. C'est pas qu'un problème de défiance et de retrait de liquidité, c'est peut-être un problème de recapitalisation de la banque. Et aujourd'hui, le problème de Crédit Suisse, c'est que ça vaut plus cher, c'est que ça a beaucoup baissé en bourse. Et donc, lever des capitaux s'annonce très compliqué et très dilutif pour les actionnaires historiques. Donc, si on a vraiment un problème de solvabilité, de créances douteuses, de problèmes véritablement de l'activité de Crédit Suisse, là, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, parce qu'il va falloir trouver un repreneur ou alors gérer l'extinction de la banque si véritablement elle ne peut pas être sauvée. Donc, là, il y a quand même un risque bancaire qui est beaucoup plus inquiétant et qui coûtera forcément beaucoup plus, qui coûtera cher aux autres banques qui ont des engagements avec Crédit Suisse. Donc là, je dirais que on n'en est pas encore là, on n'est pas encore sur la liquidation de Crédit Suisse, mais je pense qu'il faut, là, on a une réaction des marchés qui est un peu, peut-être qui peut paraître excessive comme ça, mais qui traduit surtout le fait qu'on manque de visibilité, on manque véritablement de visibilité sur les comptes de Crédit Suisse, sur ce qu'il va faire, sur sa capacité à lever de l'argent, si elle a vraiment un problème dans ses activités. Donc c'est vraiment cette incertitude qui est aujourd'hui sanctionnée par les marchés.
Elisabeth Borne a renvoyé les dirigeants suisses face à leurs responsabilités en disant que c'était un dossier qu'ils devaient régler. Néanmoins, compte tenu du risque en Europe, est-ce que la décision, est-ce que la solution, elle n'est pas européenne d'une manière indispensable ?
Bah, bien sûr, évidemment, parce que au niveau de la Banque Centrale de Suisse, elle est déjà rentrée dans le capital de Crédit Suisse, mais la taille de Crédit Suisse est quand même assez importante. Et puis, il y aura des actions qui seront faites au niveau européen par rapport aux filiales de Crédit Suisse dans toute l'Europe. Et puis, vu l'engagement de la zone euro vis-à-vis de Crédit Suisse, il y aura une intervention forcément des autorités monétaires. C'est clair qu'aujourd'hui, la réponse ne peut pas être liée qu'à une réponse au niveau de la Banque Centrale de Suisse.
Est-ce qu'il y a un risque réellement pour les autres banques européennes ? Quelle est l'exposition, par exemple, des banques françaises à Crédit Suisse ?
Alors ça, on ne le sait pas. On aimerait bien le savoir.
Sinon, est-ce qu'on a des idées ? Est-ce qu'on a des indications ?
Voilà, non, ce qui est certain, c'est qu'on a une exposition qui est liée purement au marché interbancaire déjà. Hein. Tous les jours, les banques se prêtent entre elles, donc ça, c'est très difficile à savoir. Et puis, on sait qu'il y a pas mal de produits financiers. Crédit Suisse, son gros problème, c'est véritablement son activité de marché, hein, qui était très importante. Et elle a essayé déjà, par ces derniers mois, de réduire énormément ces activités-là, mais par nature, à partir du moment où vous traitez sur les marchés, il y a forcément des engagements communs. Donc aujourd'hui, savoir précisément, on ne le sait pas. C'est pour ça aussi qu'on a cette réaction des marchés. Et c'est pour ça que quand on parle de crise bancaire, c'est vraiment un problème de confiance. Parce que derrière tout ça, il y a toujours des craintes en termes de mesure du risque et d'estimation du risque. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut entraîner des réactions assez violentes des banques. Ce qu'il faut surveiller maintenant, c'est le comportement des marchés monétaires, voir si vraiment ça affecte les prêts entre banques, entre elles, et si véritablement ça ne crée pas un risque de ce qu'on appelle de durcissement des conditions financières, en tout cas des banques qui arrêteraient leurs activités par crainte, par cette volatilité, par crainte de risque bancaire. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en phase très clairement d'incertitude, et il faut trouver une solution. En tout cas, il faut rassurer les marchés, et ça passera sûrement par une augmentation de capital de Crédit Suisse, une reprise de la banque, ou alors véritablement trouver une solution pour réduire ce risque Crédit Suisse par la liquidation de la banque.
Qu'est-ce que peut faire la Banque Centrale Européenne ? Elle se réunit demain, elle est dans un cycle de hausse des taux pour lutter contre l'inflation. Pour les banques, il faudrait aussi, peut-être, ralentir ce rythme de hausse des taux.
C'est compliqué. C'est très compliqué sa position, parce que Madame Lagarde et ses petits camarades nous ont annoncé 50 points de base pour demain, hein, et donc c'était quasiment une promesse. Alors on peut toujours revenir sur une promesse, hein, mais c'est très compliqué parce qu'elle s'est engagée. Et puis avec c'est compliqué aussi de revenir sur cette promesse, parce que si elle revient sur ses promesses, ça veut dire qu'elle envoie le message qu'elle est prête à laisser filer l'inflation pour soutenir les banques, mais ça veut dire aussi qu'il y a un gros problème bancaire en Europe. Donc est-ce que ça va réellement rassurer les marchés si elle fait pas sa hausse de 50 points de base ? Ça veut dire que ça validera les anticipations disant que c'est très grave. À l'inverse, si elle augmente de 50 points de base, on va dire elle met de l'huile sur le feu, et elle va encore handicaper un peu plus le secteur bancaire qui est déjà malmené, et donc c'est finalement une accentuation du risque. Donc quoi qu'il arrive, on a le sentiment que ça s'annonce très délicat en termes de communication. Moi je pense que le mieux ça reste quand même de tenir ses promesses. La Banque Centrale va mettre en avant qu'il y a quand même des statistiques d'inflation qui sont pas bons en Europe, hein, qu'on le veuille ou non, l'inflation en Europe reste forte. On n'a pas le mouvement de désinflation qu'on observe aux États-Unis sur la partie biens. En Europe, ça reste toujours bien, toujours fort au niveau des biens. Donc, on sent qu'il y a quand même une inflation qui est loin d'être maîtrisée. Donc, pour être crédible sur son objectif d'inflation, elle doit quand même répondre et faire ce qu'elle a dit en termes de hausse des taux. Par contre, va falloir vraiment avoir un discours beaucoup, beaucoup plus accommodant pour essayer de rassurer les marchés à l'avenir et leur montrer que finalement, on est là aussi pour éviter toute crise majeure bancaire. Mais c'est vrai que la position et la conférence de presse de Mme Lagarde s'annonce quand même assez périlleux, puisque c'est vrai que durcir la politique monétaire au moment où on a des craintes très clairement sur le secteur bancaire, c'est pas une bonne solution. Mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de bonne communication dans cette période de crise, surtout lorsqu'on a promis de monter de 50 points de base.
Ouais. En tout cas, les marchés attendent un geste. Si on regarde les anticipations en matière de politique monétaire, elles ont évolué ces derniers jours. Les perspectives de resserrement monétaire d'ici au mois de juin ont diminué de 50 à 75 points de base.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'idée que... Alors, tout dépend. Alors, ça peut très vite disparaître. Hein. On voit que c'est très volatile, les anticipations de politique monétaire. Parce que aujourd'hui, vous avez deux scénarios. Soit véritablement, on est dans un scénario avec un impact très fort sur le secteur bancaire, et donc on va avoir ce qu'on appelle les conditions financières qui vont se durcir. Ça va être beaucoup plus difficile d'avoir un crédit. On va avoir les banques qui vont prendre beaucoup moins de risques. On va avoir aussi les acteurs financiers, hein, qui vont beaucoup moins financer l'économie. Donc mécaniquement, ça va peser sur l'économie, et mécaniquement, ça veut dire que ça va apaiser très rapidement les tensions inflationnistes. Hein, parce que si on tombe en récession, parce qu'il y a un durcissement monétaire très rapide, et ben finalement le travail de lutte contre l'inflation va se faire d'elle-même par le comportement des marchés. Mais à l'inverse, si on gère bien cette crise, si dans deux semaines on s'aperçoit que on s'est fait peur sur le secteur bancaire et qu'on a les autorités qui sont capables de rassurer, on se retrouvera avec finalement une économie réelle qui aura été très peu affectée et des tensions inflationnistes qui perdurent. Et donc là, on verra un revirement des anticipations sur les marchés. Donc ça reste très volatile parce que derrière ça, c'est de mesurer est-ce que ça a des conséquences réelles sur l'économie réelle, ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on est vraiment dans un scénario noir de crise bancaire majeure, un petit peu à l'image de 2008, ou si on est sur des peurs un peu passagères et que les autorités ont bien appris à gérer tout ça, et en apportant des liquidités aux banques, on peut régler ce problème. C'est là, toute est la question est là. C'est pour ça que je disais ce qui était important, c'est que je pense que l'affaire Crédit Suisse aujourd'hui est beaucoup plus gênant que l'affaire de la Silicon Valley Bank, parce que la Silicon Valley Bank, on a les outils, on peut y répondre très vite par la Banque Centrale, par les liquidités. Si c'est vraiment un problème de solvabilité pour Crédit Suisse, là, on s'achemine quand même sur quelque chose de beaucoup plus difficile à régler. Et là, on est peut-être sur un problème beaucoup plus durable pour l'Europe. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce qui fait, ce qui explique en grande partie la violence de la correction aujourd'hui des marchés actions ou le mouvement sur les taux, hein, puisque on voit que les investisseurs cherchent avant tout la protection face au manque de visibilité qu'on peut avoir aujourd'hui face à ce risque bancaire.
Merci beaucoup Christian Parizeau pour votre analyse, pour vos commentaires, économiste conseiller chez Aurel BGC. La Bourse de Paris toujours en baisse, on perd 3,5%, les valeurs bancaires tirent toujours le marché vers le bas, 11,4% de recul pour Société Générale, 9% pratiquement pour BNP Paribas, toujours dans le sillage de Crédit Suisse. On l'a appris cet après-midi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit s'entretenir dans les prochaines heures avec son homologue suisse pour évoquer justement les manière de sortir de cette crise. On va en parler avec Philippe Wächter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane.
Ravi de vous retrouver. Votre réaction à ce décrochage du secteur bancaire aujourd'hui en Europe?
On a depuis une semaine une fragilité qui a démarré avec Silicon Valley Bank. On a une sensibilité aux questions bancaires qui est beaucoup plus marqué aujourd'hui qu'il y a une semaine ou 15 jours et qui reflète une possibilité de crise bancaire sur laquelle on doit encore fournir des éléments. Et puis l'autre point, c'est que partout dans le monde, et notamment dans les pays développés, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés, et donc les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier ont changé. Et donc, on a cet environnement avec des banques centrales qui sont plutôt réactives, on l'a vu aux États-Unis, et puis arrive cette question du Crédit Suisse, dont on ne sait finalement, moi j'ai pas le sentiment qu'on sache beaucoup dans le détail ce qui se passe au-delà des pertes, etc. Et donc on a une incertitude qui, à mon sens, est en grande partie liée à une absence d'information, ou tout au moins une information insuffisante sur ce qui se passe, dans un cadre où le Crédit Suisse est depuis pas mal de temps déjà en difficulté. C'est pas une banque qui était où tout allait bien, où d'un seul coup on découvre que les choses ne vont pas bien. Ça fait pas mal de temps qu'il y a des interrogations sur son fonctionnement. Donc d'un seul coup, on a un sentiment de fragilité du système bancaire, parce que il a été porté par la baisse des taux toutes ces dernières années. Et là, il est pris un petit peu à défaut, parce que les taux remontent, parce que il y a certaines banques qui sont en difficulté de ce fait-là. Et donc, on a la difficulté aujourd'hui, c'est d'observer que si une banque est affectée, est-ce que les autres banques ne vont pas être affectées de la même façon? C'est toujours la même question quand on parle du secteur bancaire. C'est-à-dire que quand une banque est en difficulté, chacun, qu'on soit analyste ou client de sa banque, chacun s'interroge sur la robustesse des autres banques et de sa banque en particulier quand on est client. Et on est dans ce type de configuration aujourd'hui, avec une information qui n'apparaît pas encore suffisante.
On nous dit aujourd'hui que les difficultés de Crédit Suisse sont liées à la banque, mais il y a quand même un problème qui concerne toutes les banques en Europe, c'est la remontée rapide des taux d'intérêt qui a mécaniquement entraîné des pertes de valeur dans les portefeuilles obligataires. Ça, c'est quelque chose auquel les banques françaises sont aussi confrontées.
Oui, bien sûr, mais ça fait quand même un petit moment maintenant que cette question est posée. C'est-à-dire que on a bénéficié pendant 40 ans d'une baisse des taux d'intérêt en Europe, et on en a le système bancaire et financier en a largement profité. Là, effectivement, les taux d'intérêt remontent, mais quand on était à zéro sur les taux d'intérêt long terme en Europe, personne n'imaginait qu'on aille à moins 1 ou moins 2, mais chacun avait en tête l'idée que à un moment donné, ça remonterait un peu. Donc, chacun a essayé de tirer la couverture, le point le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, il faut que les taux d'intérêt retrouvent leur objet, c'est-à-dire c'est un instrument d'arbitrage entre aujourd'hui et demain. Il faut que les taux d'intérêt soient un peu plus élevés que ce qu'ils étaient par le passé. Et donc, voilà, les choses se font de la sorte. Ce qui a surpris tout le monde, c'est pas tant la remontée des taux, c'est le fait que l'inflation soit beaucoup plus élevée que ce qui était attendu, obligeant les banques centrales à remonter les taux. Les banques centrales n'avaient pas prévu cette hausse des taux de l'inflation et les hausses de taux qui allaient avec. Les banques non plus, et donc on est pris un peu de court dans cette situation. Mais on était parti sur l'idée que cet environnement de taux très très bas pourrait durer trop très très longtemps, et là-dessus, je pense qu'on a fait tous plus ou moins une erreur d'analyse.
Un dernier mot, on en parlait avec Christian Parizeau il y a quelques minutes. La tâche va être difficile, évidemment, demain pour la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce que vous attendez?
C'est vrai qu'elle est difficile. Je dirais qu'elle est plus simple aux États-Unis qu'en Europe. Aux États-Unis, la Fed avait été construite sur l'idée de la stabilité financière. Après la crise de 1907, les banquiers se sont groupés en disant il faut qu'on ait quelque chose qui nous permette de mutualiser les risques. Et donc la Fed avait été créée là-dessus. Donc il y a une sensibilité à cette question qui est très forte aux États-Unis. Elle l'est moins en Europe. La construction s'est faite davantage sur les questions cycliques, Elles sont devenues aussi des questions de stabilité financière, mais on voit bien que la hiérarchie n'est pas tout à fait la même. Et donc, l'arbitrage pour Christine Lagarde demain est de savoir lequel des deux sera plus important. Est-ce que c'est le volet inflation, avec dans l'idée que si rien n'est fait, les anticipations d'une inflation un peu plus élevée, un peu plus longtemps, vont s'intégrer dans la tête des investisseurs, ce qui n'est pas bon. Mais s'ils ne font rien sur la stabilité financière, peut se poser un vrai problème. Donc, mon sentiment est que la BCE va continuer à durcir le ton et probablement qu'elle fera 50 points de base comme annoncé, parce que les chiffres d'inflation ne sont pas bons. On l'a encore vu avec les chiffres français qui ont été publiés ce matin.
6,3% pour le mois de février.
Voilà, avec une hausse de l'inflation sous-jacente. Mais il y aura derrière un discours ou à côté un discours sur la stabilité financière qui indiquera que la Banque Centrale Européenne est très concernée par cette question et qu'en aucun cas elle ne laissera cette problématique de stabilité financière de côté et se laisser la laissance développer comme ça. Pour l'instant, on n'a pas assez d'arguments sur la zone euro pour que la Banque Centrale Européenne conditionne complètement sa politique monétaire à cette question. Ça viendra peut-être, mais elle est dans l'obligation aujourd'hui de préparer le terrain sur cet aspect.
Merci beaucoup Philippe Wächter d'avoir été en ligne avec nous, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management. Dans un instant, toute l'actualité américaine, ce sera avec John Plassard, mais on va d'abord se pencher sur les difficultés de Crédit Suisse, tenter de comprendre ce qui s'est passé avec Jean-Louis Delorot. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Stéphane.
Alors on va revenir sur la situation de la banque. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi autant de problèmes alors que Crédit Suisse a été recapitalisé il y a quelques mois?
Oui, il n'y a pas longtemps. Alors, il y a des éléments à la fois conjoncturels et structurels. Alors ce qui est conjoncturel, ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les déclarations d'un actionnaire et pas n'importe lequel. Il s'agit d'Amar Al-Kouderi, c'est le président de la Banque Nationale Saoudienne. C'est tout simplement le plus gros actionnaire de la Banque Suisse. Depuis une augmentation de capital qui a eu lieu en novembre dernier et qui, on va y revenir, devait permettre de restructurer en profondeur Crédit Suisse. Aujourd'hui, la Banque Nationale Saoudienne détient un tout petit peu moins de 10% de la Banque Suisse. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement Amar Al-Kouderi? Il était interviewé par Bloomberg qui lui demandait s'il pouvait encore investir, remettre de l'argent dans Crédit Suisse en cas de problème. Et ce à quoi il a répondu, absolument pas. Il n'était absolument pas prêt à le faire. Et notamment, il y a plusieurs raisons, mais il y en a notamment une. Les Saoudiens ne veulent pas dépasser le seuil de 10% des parts.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe s'il passe au-delà des 10%?
Eh bien, en Suisse, quand vous dépassez, vous êtes actionnaire d'une grande banque et que vous dépassez de façon directe ou indirecte une position de plus de 10% dans le capital, il y a des règles très spécifiques qui commencent à s'appliquer. Et notamment, il faut que l'autorité de surveillance des marchés en Suisse, la FINMA, qui doit donner son accord. Et vous devez aussi fournir un certain nombre de garanties, notamment sur la gestion de la banque. Et ça, les Saoudiens ne veulent pas en entendre parler, ils veulent pas ce type de contraintes. Surtout, ils viennent de mettre déjà au pot il y a quelques mois, donc en novembre, on l'a dit, ils ont injecté 1,5 milliard de francs suisses, donc ça fait grosso modo 1,5 milliard d'euros à l'époque dans la banque Helvète. Mais c'est, pour eux, ça reste une goutte d'eau. Parce qu'il faut rappeler, c'est le bras financier de l'Arabie Saoudite. C'est l'une des plus grandes banques du Moyen-Orient. Voilà, ils n'ont pas de problème de fonds et de liquidité. C'est une banque, pour vous donner une idée, qui a autour de 250 milliards de dollars d'actifs. Voilà, donc ils ont les moyens. Mais ils semblent aussi un petit peu dire au marché, écoutez, c'est pas parce qu'on est le premier actionnaire qu'on va éponger toutes les pertes de Crédit Suisse et qu'on doit répondre de toutes les difficultés. Donc c'est un signal qui est très fort qui a été lancé. Et là, quand le marché est très tendu comme en ce moment, ça provoque un peu des mouvements de panique. D'autant plus qu'en fait, il y a un autre actionnaire de référence de Crédit Suisse qui vient tout juste de jeter l'éponge. C'est un actionnaire historique. Il s'agit de la société d'investissement américaine Harris Associates, qui a longtemps été le principal actionnaire de la banque. Et la semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils avaient vendu toutes leurs actions Crédit Suisse.
Il faut quand même rappeler que les difficultés de Crédit Suisse ne datent pas d'hier.
Ah non, ça fait longtemps, ça fait des années. Et La banque manque de cash, hein, grosso modo, hein, si je simplifie. Plus précisément, c'est le ratio prudentiel qui n'était pas assez bon.
Solide, ouais.
Hein, ce qu'on appelle le ratio de fonds propres durs, hein, ou CET1, Core Tier 1. C'est le matelas de sécurité, hein, pour faire encore plus simple. C'est pour ça qu'ils avaient levé des fonds, hein, notamment avec la Banque Nationale Saoudienne, parce que en fait, ça fait des années que la banque prend beaucoup trop de risques et elle s'est fait épingler après la faillite notamment de la société financière Green Seal. La FINMA, elle encore, avait jugé que Crédit Suisse, je cite, hein, avait gravement manqué à ses obligations prudentielles sur ce dossier. Green Seal, vous savez, c'est une fintech assez jeune, hein, qui prêtait de l'argent aux entreprises pour payer leurs factures, ce qu'on appelle aussi de la facturage. Mais la petite nouveauté, on va dire, c'est qu'ils titrisaient les créances et après ils les revendaient à des fonds qui misaient dessus, des fonds de placement. Et ils ont fini par financer un peu tout et n'importe quoi et donc ils ont fait faillite en mars 2021. Or, Crédit Suisse avait beaucoup d'argent dans des fonds qui étaient liés à Green Seal, autour de 10 milliards de dollars à l'époque, des fonds qui étaient gérés par Crédit Suisse pour ses clients les plus fortunés. Et quasiment en même temps, la banque enchaîne avec un autre scandale. Il y a un autre fonds, Archegos, un family office américain qui a fait faillite, pareil, autour de mars 2021. Là encore, Crédit Suisse avait manqué de prudence et avait perdu 5 milliards de dollars dans le dossier. Et puis, on se souvient aussi, hein, c'est un peu plus vieux, en 2019, d'un autre scandale. C'était une affaire d'espionnage d'anciens cadres qui avait quand même provoqué le départ du grand patron de l'époque, Tidjane Thiam. Donc voilà, donc les clients de Crédit Suisse ont de moins en moins confiance dans l'établissement et donc ils retirent leur argent, ce qui ne fait que renforcer le problème.
Et puis il y a la publication des comptes de Crédit Suisse il y a quelques jours, et ça c'est une publication qui a du mal à passer.
Oui, tout à fait, bien, c'était hier, hein, donc tout ça s'enchaîne, et là clairement, hein, ils ne sont pas bons du tout, les comptes, c'est les comptes annuels 2022, les revenus sont en chute libre, hein, moins 34% en 2022 pour les revenus de la banque. En face, les dépenses grosso modo opérationnel pour faire tourner la machine, elles n'ont pas tellement bougé. Donc, les pertes de Crédit Suisse ont explosé. La banque a perdu 7,3 milliards de francs suisses l'an passé. Et on voit aussi que les actifs sous gestion, c'est aussi quelque chose à regarder de près pour une banque de cette taille-là, mais ils ont fondu de près de 20%. Donc, la restructuration de la banque, elle est loin d'être finie. Et d'ailleurs, Crédit Suisse prévoit encore de terminer dans le rouge en 2023. Ça fera quand même sa troisième année d'affilée avec des pertes.
Ouais, et puis, il faut rappeler le contexte dans le secteur bancaire. Et on va en parler dans un instant avec John Plassard. Il y a la fermeture de 3 établissements aux États-Unis.
Bien sûr, en quelques jours, hein, une semaine, 10 jours. On le rappelle, hein, les autorités américaines ont été obligées de fermer 3 banques, Silvergate, Silicon Valley Bank et Signature Bank. Et bien évidemment, tout le monde craint un effet domino, un scénario catastrophe. Donc, on regarde du côté des maillons les plus faibles de la finance mondiale. Et clairement, hein, Crédit Suisse en fait partie depuis plusieurs années. Et ça fait un effet boule de neige. Et puis, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, tout ça dans ce contexte de remontée des taux. Et bien, effectivement, plus les taux remontent, plus certaines banques, les banques les plus fragiles, vont être certainement de plus en plus mises sous pression.
Merci beaucoup, Jean-Louis Deloro. Daniel Gérino est en ligne avec nous, président de Carlton Sélection. Bonjour Daniel.
Bonjour Stéphane.
Est-ce que de votre point de vue, il y a un risque systémique aujourd'hui en cas de faillite de la Banque Crédit Suisse ?
Alors la Banque Crédit Suisse, c'est 1400 milliards d'actifs. Donc forcément avec des produits complexes qui sont disséminés un petit peu partout, mais pas seulement en Europe, mais également aux États-Unis. Donc ça peut créer une sorte de très très forte confusion sur l'ensemble des places. Et comme nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les positions de Crédit Suisse, ni la situation exacte de Crédit Suisse, il est évident que ça crée un trouble et dans l'inquiétude, dans le manque d'informations, l'ensemble du secteur bancaire trinque. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de baisse, compris la plupart des banques, notamment françaises, est raisonnable ? Moi, je pense que c'est un peu excessif. Hein, quand on a aussi peu d'informations, on price évidemment le worst-case scénario. Donc, je pense que clairement aujourd'hui, on attaque davantage les banques françaises que les banques anglaises ou les banques italiennes. Vous voyez, par exemple, des banques comme UniCredit ou Intesa ne perdent, entre guillemets, que 5-6% pendant que Société Générale perd 10%, ainsi que BNP. Et NatWest perd 80%. Donc, vous voyez, on est un petit peu dans un maelstrom où on n'a pas beaucoup d'informations sur la situation de Crédit Suisse. Et on peut quand même dire que les autorités suisses traînent un peu du pied. On sait que la Suisse, c'est pas toujours extrêmement rapide, mais pour le coup, la Banque nationale suisse ne fait aucun commentaire. On est dans la situation d'un no comment. Bon, il me semble quand même que depuis le temps qu'on sait que le Crédit Suisse présente un certain nombre de carences, de difficultés, la Banque nationale suisse avait quand même le temps de préparer les choses et de se positionner avec un spectre de réponses qui permettent en fait de rassurer un peu les marchés. Donc ça fait beaucoup d'éléments. En fait, on a quasiment un alignement négatif des planètes pour Crédit Suisse.
Certains font déjà le parallèle avec la faillite de Lehman Brothers en 2008. Est-ce que ça vous paraît exagéré comme comparaison ?
Ah oui, clairement. C'est pas du tout le même niveau d'implication, le même niveau d'imbrication avec l'ensemble du système bancaire international. Lehman Brothers, c'était comme Goldman Sachs, c'est-à-dire des banques réellement systémiques extrêmement importantes. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Moi, je pense que là, c'est vraiment totalement déraisonnable. Aujourd'hui, on est sous le coup, on est sous le choc. J'entendais tout à l'heure dire on rachète pas un couteau qui tombe. Quand on voit des banques comme BNP ou Société Générale ou même Crédit Agricole, on peut pas parler d'un couteau qui tombe. Ce sont quand même des banques qui sont saines, qui peuvent avoir un certain nombre de liens ou d'opérations croisées avec Crédit Suisse. Mais enfin, ça ne peut pas atteindre à ce point-là la valorisation de ces banques. Je crois que là, aujourd'hui, on est dans une situation où on a tous très peur, mais excessivement. Je dis pas qu'il faut être rassuré, mais c'est sans doute le manque d'intervention des autorités qui crée cette situation, plus la convergence de SVB, la faillite, d'un côté, la sortie des investisseurs de Crédit Suisse, des erreurs de communication du CEO de Crédit Suisse, des discussions en cours avec la SEC concernant les comptes de Crédit Suisse, la Banque nationale saoudienne qui a clairement dit « absolutely not », donc je ne veux pas remettre un copec de plus dans cette banque, mauvaise communication dans la situation actuelle, qui font que aujourd'hui on price le pire. Et moi je pense que dans 2-3 jours les choses se calmeront un peu. Bien évidemment, il faut surtout pas que Christine Lagarde remonte ses taux de 50 centimes parce que là, elle donnerait un message extrêmement clair qui consisterait à dire finalement, j'ai des œillères, je ne regarde que l'inflation et le système bancaire, je ne m'en occupe pas alors que c'est une de ses fonctions principales. Ça, j'ai un peu du mal à le croire.
Alors justement, vous pensez que Christine Lagarde, qui avait clairement annoncé une hausse de 50 points de base pour la réunion de demain, va devoir revenir sur cette annonce et faire un geste peut-être moins important ?
Ah oui. Alors là, moi, clairement, il est clair que si Christine Lagarde fait 50 centimes de hausse de taux, ça veut clairement dire, aujourd'hui, le système bancaire, c'est plus ma préoccupation. Or, on voit que la remontée des taux d'intérêt, c'est ce que disait Warren Buffett en disant quand la mer se retire, on voit qui a le maillot de bain et qui ne l'a pas. Là, maintenant, la Banque Centrale Européenne retire de l'argent, remonte les taux. Toutes les fragilités du système qui étaient masquées par une surabondance de liquidités et des taux zéro, donc on rasait gratis, aujourd'hui cette situation n'existe plus. Et on revient vers des normes. Donc les premières victimes, c'est un peu le système bancaire, mais il y en aura d'autres. Il faudra faire attention également à l'immobilier, au private equity, tout ce qui est à duration longue. Les taux remontent, ça crée évidemment, mécaniquement, mathématiquement et actuariellement, une perte de valorisation des actifs longs, à duration longue. Et donc, moi, je pense que Christine Lagarde devra bien évidemment monter ses taux, mais que de 25 points de base. On entend dans le marché certains dire « Ah, elle pourrait stopper et se mettre à zéro », ce serait également une erreur. Ça consisterait à dire « Finalement, tout mon discours, je ne le tiens plus, et puis je ne fais plus attention à l'inflation ». Donc elle a deux balises de part et d'autre. L'inflation d'un côté qu'elle ne peut pas abandonner, mais nous pensons qu'elle ne peut pas non plus ne pas tenir compte de la situation bancaire qui aujourd'hui est dans une sorte de situation compliquée, d'une sorte d'inquiétude à mon avis excessive. Et donc elle doit faire un geste en disant « ce ne sera que 25 points de base, quitte à travailler également sur la quantité de monnaie disponible, donc le quantitative tightening. Mais en tout cas, 25 points de base me paraissent raisonnables. 50 points de base, ce serait dire finalement, je suis buté, borné uniquement sur mon inflation, alors que c'est pas le problème le plus urgent, et ne pas monter les taux d'intérêt reviendrait à se déjuger, ce qu'elle ne pourra pas faire.
Mais est-ce qu'annoncer une hausse à minima de 25 points de base, ça ne risque pas d'alimenter la panique, la spéculation sur les marchés financiers? Ce serait à la fois le signe qu'elle est inquiète de du système bancaire en Europe, et à la fois une façon de dire que la lutte contre l'inflation n'est plus un objectif prioritaire, quoi qu'il arrive.
Oui, il peut y avoir cette vision des choses. Sauf que en agissant à 50 points de base, elle continue à fragiliser le système et elle pourrait envoyer un message inverse qui consisterait à dire finalement la Banque Centrale Européenne ne se préoccupe pas de ce qui se passe en Suisse. Or, comme on est sans doute croisé dans un certain nombre d'opérations avec Crédit Suisse, que ce soit les Français, les Italiens, les Espagnols ou les Portugais, un des rôles quand même de la Banque Centrale, c'est de faire en sorte que le système bancaire soit fiable. Donc, ne pas en tenir compte, je pense que ça pourrait alimenter encore plus la spéculation à l'encontre du système bancaire et donc les fragiliser davantage. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, des grandes banques comme BNP ou Société Générale ont perdu 10% de leur capitalisation. C'est pas neutre, ça fragilise.
Bruno Le Maire va parler à son homologue suisse dans la journée pour évoquer justement le dossier Crédit Suisse. Qu'est-ce qu'il peut lui demander? Faire vite?
Ben, je pense qu'il faut qu'ils fassent vite et qu'ils interviennent. Il faut trouver un actionnaire. Ça pourrait être un actionnaire américain. Manifestement, Mohamed Ben Salem, enfin la Banque Nationale Saoudienne, ne souhaite pas remonter pour des raisons réglementaires qui ont été évoquées juste avant. Ne pas dépasser, ils sont à 9,9%, ne pas dépasser les 10. Mais soit c'est un consortium de banques suisses qui prend le relais, soit faire rentrer dans le capital une banque américaine qui souhaiterait se développer sur le territoire européen. Mais en tout cas, il faut intervenir, il faut agir. Moi, je suis extrêmement étonné du fait que la Banque nationale suisse ne bouge pas. C'est une bombe à retardement sur tout le système bancaire suisse. UBS avait déjà eu un certain nombre de déboires. Aujourd'hui, Crédit Suisse, si la Suisse ne réagit pas sur une industrie qui est une industrie majeure du pays, il y a un risque quand même central qu'il y ait un effet de propagation sur d'autres établissements suisses, ce qui serait tout à fait regrettable pour la Suisse, pour l'économie suisse.
Si j'ai bien compris, Daniel, vous n'êtes pas inquiet outre mesure pour les banques françaises. Je vais faire un peu de provocation, mais est-ce qu'on peut profiter de la forte baisse d'aujourd'hui pour se renforcer?
Eh ben, nous l'avons fait.
Ouais, c'est un point d'entrée intéressant.
Ben, écoutez, oui. Regardez le nombre d'opérations que des gens ont pu faire il y a 4-5 jours sur des prix à 10% plus élevés. Tout le monde connaissait les problématiques de Crédit Suisse. C'est pas parce que un intervenant saoudien a dit je ne remettrai pas d'argent dans le système bancaire, enfin dans la banque Crédit Suisse, que les choses vont se renverser sur des belles banques comme BNP. Donc moi je ne suis pas du tout inquiet là-dessus. Ça fait 35 ans que je suis dans les marchés financiers. Ce sont au contraire des opportunités. Là, tout le monde a très très peur. Eh bien, nous, on a commencé ce soir à renforcer sur des moins 10, moins 11 sur BNP.
Et c'est une attitude généralement des professionnels de savoir justement analyser la situation et prendre position dans des moments qui ne sont pas forcément évidents. Merci beaucoup, Daniel Gérineau, pour votre analyse, pour vos explications, président de Carlton Sélection.